Hello, vous écoutez l'épisode 180 du podcast Mes trucs de prof. Et aujourd'hui, je vous raconte un peu mon parcours, de mes débuts comme enseignante à mon métier actuel de coach. Et surtout, je vous partage ce que j'ai appris en chemin pour traverser les changements sans perdre pied. Je suis Émilie Lefattan, coach professionnelle et formatrice. J'accompagne les profs et les professionnels de la pédagogie à retrouver confiance en eux et à y voir plus clair dans leur métier, à retrouver de l'énergie et du sens au quotidien. Et dans ce podcast, on réfléchit, on se questionne et on partage des clés concrètes pour pouvoir mieux vivre son métier, nourrir sa pratique et remettre du bien-être dans son quotidien de prof. Alors, si tu as envie de prendre un temps pour toi, de souffler un peu et de réfléchir à ta façon de travailler ou à ta vie de prof, mets tes écouteurs, installe-toi confortablement et c'est parti! Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison du podcast. Alors, il n'y a pas vraiment de saison dans mon podcast, mais comme je pense toujours en année scolaire et en période, et que cet épisode est le premier de l'année scolaire 2025-2026, bien je crois qu'on peut dire qu'il s'agit d'une nouvelle saison. Donc, j'ai été bien prise en ce début d'année. D'habitude, septembre, c'est plutôt calme sur les coachings. Mais cette année, certains et certaines d'entre vous n'ont pas attendu, ont été prévoyants. Donc en tout cas, c'est pour ça que j'ai pas réussi à enregistrer d'épisode plus tôt, puisque nous sommes le 30 septembre au moment où j'enregistre. Donc, il y a quelques mois, pendant une pause déjeuner, un jour où je dispensais une formation, eh bien j'ai rencontré une auditrice dans la rue qui m'a interpellée, qui m'a dit « Mais vous êtes mes trucs de prof, je vous suis !» Et c'était la première fois d'ailleurs que j'étais interpellée dans la rue par quelqu'un qui écoute mon contenu. Et c'était une enseignante qui profitait de sa pause déjeuner pour faire sa marche quotidienne. Donc j'ai marché, j'ai partagé sa marche avec elle. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est vraiment une pratique hyper intéressante à différents points de vue. Ça vous permet de couper, ça vous permet de d'avoir une activité physique, de prendre l'air, de vous ressourcer un peu et un petit peu seul hors du tumulte de la classe ou de la salle des profs. Et puis c'est aussi l'occasion de revenir à soi et de s'offrir un sas, et ça je vous en parlais dans l'épisode 109. Donc vraiment, si vous avez la possibilité d'essayer de marcher un peu le midi, je vous invite à le faire. J'ai eu une coachée il y a 2 ans qui avait mis en place ce petit rituel avant d'aller manger, juste en ayant laissé partir ses élèves déjeuner. Elle allait marcher 10 minutes et cette pratique lui avait été vraiment bénéfique. Donc voilà, fin de ma petite digression. Donc bref, j'ai rencontré cette enseignante et j'ai partagé sa marche. Donc nous avons discuté et elle m'a dit « Mais Émilie, ce serait vraiment bien que tu fasses un épisode où tu nous parles un peu plus de ton parcours parce que ça pourrait inspirer plein de personnes. » Donc quand elle m'a dit ça, j'étais un peu surprise, j'ai un peu bégayé et je me suis dit « C'est vrai que je distille des petites infos, des petites anecdotes par-ci par-là dans le podcast pour illustrer mes propos. J'ai quelques épisodes qui évoquent clairement mon parcours ou qui je suis, mais en réalité, je ne m'étais pas vraiment dit que c'était des épisodes qui pourraient intéresser. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, c'était au mois de juin et donc j'ai mis 4 mois avant de me décider à faire cet épisode. Parce qu'en fait, c'est pas toujours évident de parler de soi et que j'avais besoin, je pense, de réfléchir à ce qui pourrait être intéressant et inspirant pour vous. Donc voilà, après cette petite intro, pour relancer la saison, l'idée c'est de vous faire un premier épisode qui va prendre appui sur mon parcours. Qui je suis, d'où je viens, où j'en suis, pourquoi je coach des profs. Mais ce sera surtout pour moi l'occasion de vous partager certains concepts de coaching et de vous poser des questions qui vont vous faire réfléchir, comme c'est le cas dans les coachings. Je ne vais pas vous faire l'historique de ma vie personnelle, mais je vais quand même commencer par vous dire que ma mère était institutrice et que donc j'ai connu les coulisses de l'école depuis toujours. Je savais exactement ce qu'impliquait le métier de prof et j'avais eu l'exemple d'une mère passionnée qui a aimé son métier jusqu'à la retraite. Donc ça m'a autant servi pour être lucide sur l'implication personnelle que nécessite ce métier qu'en même temps, je pense que ça m'a aussi fait entrer dans le métier avec une représentation de la masse de travail qui ne m'a pas aidée à mettre de limites et qui a en quelque sorte normalisé dans ma façon de voir les choses le fait d'y passer autant de temps. Et ça, j'ai vraiment dû le déconstruire. Pendant des années, ça m'a semblé complètement normal de travailler autant. Et j'ai même pas envisagé d'essayer de ne pas le faire. C'est-à-dire que c'était même pas dans les choses que j'avais envie de faire, d'essayer de moins travailler. Pour moi, c'était complètement normal et en fait, ça ne me dérangeait pas. Donc, j'ai eu le concours en 2005, j'avais 21 ans et à ce moment-là, eh bien, je travaillais déjà dans l'éducation nationale à temps plein depuis 2 ans, dans des classes de CP, en tant qu'assistante d'éducation, dans ce qu'on appelait à ce moment-là le plan de lutte contre l'illettrisme. Donc, en fait, finalement, j'ai quasiment jamais quitté l'éducation nationale entre le moment où j'étais élève et le moment où je suis devenue prof. Et puis à la fac, j'avais un emploi de 27 heures semaine dans un fast-food. Pourquoi je vous dis tout ça ? Pas pour vous faire mon CV, mais parce qu'en fait, j'ai mis 15 ans à questionner la place que le travail avait dans ma vie, parce qu'en fait, il a toujours été présent. Et je crois que si j'avais pu me poser certaines questions plus tôt, eh bien, j'aurais sûrement évité le burn-out que j'ai fait en 2020. Et en même temps, eh bien, si ça n'avait pas été le cas ou si j'avais fait les choses différemment, eh bien, je ne serais peut-être pas là en train de vous parler dans ce podcast ou pas là en train à vous coacher et peut-être que je serais toujours dans ma classe, j'en sais rien. Donc à l'époque, j'arrivais tôt le matin à l'école, je repartais tard, je travaillais le midi, je travaillais pendant les vacances, le mercredi, le samedi, le dimanche, tout le temps, en continu. Et en fait, ça m'allait bien en réalité. Ça m'épanouissait et j'avais pas du tout conscience d'avoir besoin d'autre chose à ce moment-là. Et puis en plus, j'avais l'énorme chance de travailler en binôme avec une amie que j'avais rencontrée à l'UFM. Et on avait fait notre mémoire ensemble sur le théâtre forum. Et mes besoins, en fait, étaient nourris. Mes besoins de collaboration, d'émulation intellectuelle, d'innovation, d'entraide, de bonne humeur. Donc en fait, je travaillais beaucoup, mais je n'étais pas épuisée déjà. Et puis, mes besoins du moment étaient nourris. J'avais du temps à consacrer à mon travail, je n'avais pas d'autres engagements extérieurs, et donc je pouvais à la fois travailler beaucoup et aussi voir mes amis, aller au ciné, dormir suffisamment, etc. Donc la question, finalement, n'est pas tant combien de temps on travaille, mais est-ce que ça nous convient? Et est-ce que nos besoins sont nourris? Est-ce que notre façon de travailler est un problème? Pour qui? Dans quelle situation? Est-ce que on a nos besoins physiologiques, nos besoins de sommeil, de nutrition, etc. sont comblés? Et est-ce que nous nous sentons épanouis dans cette situation-là? Et donc, vraiment, l'idée, c'est de se demander, est-ce que, si vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup, est-ce que vous travaillez beaucoup, mais vous êtes à l'aise dans ce que vous faites? Ou bien est-ce que vous travaillez beaucoup et ça nuit à votre équilibre, ça nuit à votre santé, ça nuit à votre vie personnelle? Et est-ce que, malgré tout le travail, tout le temps que vous investissez, vous avez quand même l'impression de ne pas être satisfaite de votre travail? Et c'est ça qui peut être un indicateur de faut que je réfléchisse, que je prenne du recul et que je vois les choses autrement. Déjà, prendre du recul pour prendre conscience de ça. Et donc là, on touche à la conscience de soi, avoir conscience dans l'instant de ce que nous ressentons, de ce dont nous avons besoin et dans quel état nous sommes. Et faire ce travail-là, ça c'est ça que je faisais pas avant et dont je n'avais pas conscience, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence entre les moments où je travaillais beaucoup et que ça m'épanouissait et avec les moments où je travaillais beaucoup et que ça me fatiguait. Donc la question que vous pouvez vous poser là, par rapport à la place que votre travail occupe en ce moment dans votre vie, c'est « Est-ce que ça vous convient ? Oui ? Non ? Et en quoi cela ne vous convient pas ?» Donc quand je suis devenue mère pour la première fois, c'est là que j'ai commencé à vraiment m'épuiser. Parce que j'ai continué à faire exactement comme avant, sans modifier ma façon de travailler. Et avec le recul, je crois que si vraiment j'avais pu être accompagnée, coachée, suivie à ce moment-là, ça m'aurait permis de prendre du recul, d'apprendre à prioriser, à continuer de m'écouter et à écouter mes besoins. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas du tout conscience de l'impact de ce changement dans ma vie. Et ça, c'est l'une des choses à identifier dans nos vies, les périodes charnières où tout bascule. En systémie, on parle de changements de type 1 et 2, c'est-à-dire que les changements de type 1, ce sont des changements qui vont intervenir à l'intérieur d'un système, d'une organisation. Ce sont des petits changements qui ne vont pas modifier tout le fonctionnement du système, mais qui vont créer quelques petites instabilités et où une petite adaptation de notre comportement, de notre façon de faire, va permettre en fait au système de fonctionner comme avant, de se remettre à fonctionner ou de continuer de fonctionner. Donc ça veut dire que ben voilà, on a parfois des petits changements qui vont nécessiter qu'on s'adapte, qu'on réajuste des choses, et ça c'est un peu le quotidien, mais voilà, un peu plus important, mais qui vont nécessiter de petites adaptations. Et puis parfois, eh bien, nous vivons donc ce qu'on appelle des changements de type 2. Là, c'est tout le système qui change. C'est-à-dire que c'est vraiment un changement plus profond qui va, en quelque sorte, modifier les règles du jeu, qui va modifier le fonctionnement du système. Et ça, ça va changer parfois jusqu'à notre façon de voir les choses. Sauf qu'on aura naturellement envie de faire comme avant et qu'il va falloir vraiment réinventer en fait les choses, les façons de faire, parce que tout le contexte change, que tout change énormément et qu'on ne peut plus faire comme avant. Mais nous avons envie naturellement de revenir à ce qu'on connaît, à ce qui nous rassure, à ce qui est habituel. Donc ces changements de type 2, ça peut être par exemple une mutation, une séparation, un changement de direction dans une école, ou le changement de la moitié d'une équipe. Par exemple, si on est dans une école et que il y a un collègue qui est absent pendant quelques semaines, là on va plutôt être sur un changement de type 1, ça va avoir des répercussions bien sûr sur le quotidien et sur le fonctionnement, mais on va réajuster, on va répartir les élèves, ou il va y avoir un remplaçant, on va réexpliquer 2-3 choses, réajuster 2-3 choses, et l'école va continuer de fonctionner comme elle fonctionnait. Alors que si on change de direction ou si on change la moitié de l'équipe, là pour le coup c'est un plus gros changement qui va vraiment avoir un plus gros impact sur le fonctionnement de l'école. Il y a plein de choses qui vont être à repenser, réinventer, on ne va plus pouvoir fonctionner exactement comme avant. Donc tous ces changements, devenir parent, une mutation, une maladie, une séparation, tout ça ce sont des changements plus importants, des changements de type 2 qui vont nécessiter changements, de plus grosses réadaptations. Et en devenant parent, et ben c'est le cas, c'est tout notre système, tout notre environnement, toute notre façon de voir le monde, notre organisation, tout change. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai traité ce changement, cet énorme changement, comme un petit changement. Je me suis dit, j'ai qu'à juste travailler comme avant, mais en bouchant les trous dans mon emploi du temps ou en me couchant plus tard. Sauf que tout a changé pour moi à ce moment-là. Ce n'était pas juste une question de moment de travail. En fait, il fallait que je revoie toute mon organisation parce que j'avais plus du tout tout le même temps à consacrer, plus les mêmes priorités, plus la même façon de regarder les choses. Et en fait, il aurait fallu à ce moment-là que je prenne le temps de me poser, d'être accompagnée, de mettre les choses à plat, de voir aussi émotionnellement ce qui se jouait pour moi et de modifier ma façon de travailler et mon rapport au travail. Et là, c'était un gros switch. J'avais vraiment besoin de faire le point en fait sur mes besoins et mes nouveaux besoins. Et au lieu de ça, je me suis mise de côté, moi, mes envies et mes besoins, pour pouvoir prioriser tout le reste et avoir l'illusion de pouvoir tout faire comme avant, au niveau professionnel en tout cas. Donc avec le recul et avec mon regard de coach aujourd'hui, je sais que ces gros changements sont plus longs, plus coûteux, qu'il est très utile d'être accompagné dans ces moments-là. Et ça, c'est le métier justement des coachs, d'accompagner les périodes de changement, de transition, petit changement ou gros changement. Alors, je vais m'arrêter là sur cet épisode. Et ce que je vous propose pour le conclure, c'est de vous demander si vous vivez des changements en ce moment et si ces changements sont plutôt des petits changements qui vont nécessiter des petits ajustements, des petits changements organisationnels, des ajustements de posture ou de nouvelles petites habitudes, ou bien si ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, ce sont vraiment de gros changements qui vont complètement changer votre façon de faire ou votre façon de voir les choses, ou qui vont avoir un impact énorme sur toute votre organisation, sur votre vie en général ou sur l'exercice de vos fonctions. Alors du coup, demandez-vous quels changements êtes-vous en train de traverser en ce moment ? et comment vous vous sentez face à ce changement. Qu'est-ce que vous êtes prêt à ajuster, à réinventer, à modifier? Ou qu'est-ce que vous avez vraiment très envie de conserver et comment vous faites avec ça? Voilà, quelques petites questions de coaching. Et quel que soit le changement que vous êtes en train de vivre, sachez que vous gagnerez à être accompagné. Parfois, c'est en thérapie, parfois, c'est en formation, parfois, c'est en coaching. Et si c'est le coaching qui vous tente, eh bien, n'hésitez pas à me solliciter. Je vous retrouve donc dans un prochain épisode avec la suite de mon parcours pour pouvoir évoquer d'autres concepts et continuer de vous faire réfléchir. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast « Mes trucs de prof ». Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez découvrir mes deux livres « Gestion de classe, mode d'emploi » et « Enseigner selon son profil ». Celui-ci est un guide pour explorer la connaissance de soi en tant que prof avec des apports théoriques clairs, des expériences concrètes et des exercices introspectifs. Et si vous sentez que c'est le moment de vous faire accompagner, je propose aussi des coachings personnalisés. Rendez-vous sur mestrucsdecoach.fr/contact. Vous pouvez également recevoir chaque mois un concentré d'idées, de réflexions et de compléments dans ma newsletter. Pour vous y inscrire, rendez-vous sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Et tous les épisodes du podcast sont disponibles sur mestrucsdeprof.fr. Ou sur votre application de podcast préférée. Et si le podcast vous plaît, pensez à lui attribuer quelques étoiles et pourquoi pas un petit mot. Et surtout, partagez l'épisode, c'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de faire connaître mon travail à d'autres. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.